2. Sur parole. Moutée d'amis, mes pauvres sont lidons. Honte en avrons. Ces ports marais en sont, suis ces deux hivers pris. Richard Cœur de Lion. Une fois qu'elle fut entrée dans le bois, la troupe de cavaliers ne s'enfonça pas très avant sous le couvert, mais longea la lisière au petit trot. Il eût été facile de suivre la compagnie, si les vilains de Chanevier avaient eu la témérité de le faire. Ayant enfourché à la hâte leur destrier, les chevaliers ouvraient la voie dans un grand fracas de branches brisées. Le page suivait, pestant contre son ronsin qui ne demandait qu'à prendre le mort aux dents, et contre le cheval de somme dont les paquetages s'empêtraient dans la ramée. Les deux écuyers fermaient la marche. Contrairement à l'usage, le vieux Nem guidait le palefroid de son seigneur. Il rassurait de la voix le splendide animal qui renaclait sur cette voie mal frayée. Le second écuyer était un damoiseau assez vigoureux, ayant fort à faire pour mener des deux mains une bête de bât et le cheval de monte de son seigneur, il se laissait un peu distancer. « Quelle infamie !» s'emporta le chevalier à la Côte d'Azur. « Tourner casaque devant un ramassis de gueux !»« Quel honneur aurions-nous gagné à les auxir ?» objecta le sire de Vaumacel. « Eh bien, celui de ne point se comporter en coire !»« Nous avons fait preuve de clémence, sire Ivorin. C'est aussi une noble vertu. » Le chevalier à la Côte d'Azur remâcha un moment ce jugement, probablement à l'aune de sa propre situation. Que me voulait donc ces rustos ? S'indigna-t-il. Ils ne me connaissent point, et je ne leur ai fait nul outrage. Je crains qu'il n'y ait eu malentendu, regretta le sire de Vaumacel. Et je vous dois quelque explication à ce propos. Un des enfants de ce finage a disparu. Ce n'est qu'un petit gueux, mais il se trouve que je recherche celui ou ceux qui l'ont enlevé. À cette fin, j'ai devisé hier avec ces vilains. Leur bêtise aura fait le reste. En nous voyant livrer combat, ils vous auront confondu avec le ravisseur. Quoiqu'il ne soit pas de mon fait, croyez bien que je suis navré de la méprise. Et moi donc ? Grommela Ivorin. Me prendre pour un forban ? Moi qui vous demandais justice ? La petite bande poursuivit son chemin un moment sans mot dire, dans un pétillement de branches brisées. Là de fendre la ramée, le sire de Vaumacel finit par se tourner sur sa selle pour interpeller son écuyer. « Sommes-nous suivis ?»«
Je ne crois pas, »
répondit le vieux Nem. « Alors sortons du bois. » La compagnie se rassembla sitôt l'orée franchie. Le coteau s'était incurvé derrière eux et masquait le pré du Bestorné, même si l'on apercevait encore au loin la nef trapue du Moutier. Sur les jachères qui descendaient mollement vers la rivière, nulle animation. Un chemin creux se perdait dans la brume remontée de l'Andoune. « Ôtons nos armes, » décida le sire de Vaumacel. « Nous serons plus à l'aise et cela nous épargnera d'autres équivoques. » La compagnie mit pied à terre, et les chevaliers s'offrirent aux soins de leurs gens pour être délivrés de l'armure. Comme son écuyer et son page étaient occupés à le délacer, le sire de Vaumacel s'adressa au petit varlet.
« Quel ? Nous aurons à parler de ce qui s'est passé sur le pré. »«
Pourquoi donc ? »
protesta le jouvenceau.
« Je n'ai rien fait de mal !»
Tout en ôtant une spalière, le vieux Nem lui jeta un regard lourd de reproche.
« Te voici bien pressé de t'absoudre, »
observa le chevalier.
« Mais c'est pouilleux, il vous manquait de respect. »
« C'est un fait. Or, ce qui s'est passé ne me restaurera point dans leur estime. »«
Que nous en chaud, ce sont gens de rien. »
« Certes qu'elles, mais ce sont aussi les gens du seigneur du trèfle. »
Alors qu'il s'apprêtait à répondre, le page poussa un cri de surprise. Il venait de se piquer à l'ardillon d'une sangle.
« Et donc la tête à ce que tu fais ?»
gronda Nem. «
ou c'est moi qui vais sévir. »
Bien qu'il n'eût qu'un écuyer à son service, le chevalier d'azur était désarmé presque aussi diligemment que son vainqueur. Il grimaça cependant quand on lui ôta la cubitière et le garde-bras du côté droit. Ce rictus n'échappa point au chevalier de Vaumacel.
« Comment va votre bras ? » s'enquit-il.
« Oh, rien de bien grave, » répondit Ivorin. « J'en ai connu d'autres. »
« Si vous avez besoin de soins, je vous confierai à Nem. Il m'a remis sur pied plus souvent qu'à mon tour. »«
Ne vous en déplaise, vous n'avez pas frappé assez fort pour percer l'armure. Et Bribras sait recoudre les plaies. » »«
Je ne doute pas des dispositions de votre écuyer. » Et j'ai pu mesurer la solidité de vos armes. J'ai plutôt l'impression que vous avez le membre froissé. Nem connaît des cataplasmes pour soulager les foulures.
Vous êtes trop aimable, Sir Edan, mais il m'en coûterait autant d'être soigné par vous que d'en être frappé.
Je crains qu'il ne vous en coûte davantage pour être libéré de mes soins.
Débarrassé du haume, de la coiffe et du camail, les deux chevaliers retrouvaient figure humaine. Malgré ses larges épaules, Ivorin paraissait fort jeune. Ses cheveux blonds cendrés, coupés mi-longs, avaient tout le dru et le soyeux de ses 20 ans. Quoique sans régularité, ses traits respiraient le charme que confère une belle fermeté de caractère acquise à la fleur de l'âge. Le ressentiment et le dépit se peignaient sans dissimuler sur ce visage juvénile. Pour autant, le preux n'en oubliait pas les usages.
« Puisque vous abordez la question, quel sera le prix de ma liberté ?»«
Nous en discuterons en reprenant la route, » répondit le sire de Vaumacel. « Ne nous attardons pas sur cette lisière. Nous sommes encore proches de Chanevier, et il me déplairait d'avoir à molester d'autres vilains. » Une fois en selle, nous aurons tout loisir de fixer votre rançon.
Comme il vous plaira. Mais où irons-nous?
Une visite au château du Trèfle s'impose. Il me faut présenter des excuses au seigneur du pays.
Comme les écuyers remettaient les boucliers sous housse, Edan de Vaumacel désigna celui de son prisonnier.
Depuis que nous avons croisé le fer, je suis intrigué par vos armoiries.
« Dit-il.
J'espère que vous n'en prendrez pas ombrage, Sir Ivorin, mais ce corps riveté sur champ d'azur ne m'évoque rien. D'où tenez-vous ces armes ?»«
Ce sont celles de ma famille, du pays de Kéran. »«
Pardonnez mon ignorance, mais je ne connais pas votre lignage. »«
Cela ne m'étonne guère, » repartit le jeune chevalier avec humeur. « C'est un petit lignage du comté de Belestance. » Mon père est un vavasseur du comte. En fait, il a rendu hommage au sire de Prangeray, qui tient lui-même son fief de Monseigneur de Dinel.
Ah, je comprends mieux vos bonnes manières. Belestance est une terre bénie des dieux. Quand j'ai eu le plaisir d'y voyager, j'ai trouvé que l'agrément de la contrée n'y avait d'égal que la courtoisie de la noblesse.
Puisque nous parlons de nos couleurs, à moi de vous retourner la question.
Répliqua Ivorin.
La dame qui m'a envoyé vers vous m'a dit que je vous reconnaîtrais à vos 5 épines sur champ d'argent. Or, sur votre écu, je n'en ai compté que 4. J'ai même douté d'avoir trouvé le bon chevalier, du moins jusqu'à ce que vous me décliniez vos noms et qualités. Comment expliquez-vous cet écart?
5 épines, dites-vous? C'est singulier. Je ne m'en souvenais pas. Mais il est vrai que selon l'opinion qu'on se fait de ma personne, on m'attribue plus ou moins de piquant. Or, la dame qui vous a dépêché ne me tient pas en très haute estime.
Sur ce point, au moins, nous tomberons d'accord.
Une fois les harnois remballés sur les chevaux de somme, les chevaliers enfourchèrent leurs palefrois, laissant les destriers aux mains des écuyers. La petite bande traversa un pré pour rejoindre le chemin, qu'elle emprunta vers l'amont de l'Andoune. La matinée était avancée et le brouillard s'effilochait sur les berges du cours d'eau. Quoique de plus en plus diaphane, la brume demeurait néanmoins suffisante pour masquer les cavaliers depuis le village de Chanevier. Aux yeux d'un passant, rien n'aurait trahi l'escarmouche que ce groupe venait de traverser.
« Eh bien, puisque nous voici en route, »
reprit le jeune chevalier,
« je vous le demande à nouveau, à quel prix me rendrez-vous ma liberté ?»«
Oh, vous êtes libre, » répondit nonchalamment le sire de Vaumacel, « pour peu que vous me laissiez vos armes et votre destrier. »
« Oui, je m'attendais à quelque chose de cet ordre, »
convint tristement Ivorin.
« Eh, c'est la rançon d'usage. »
Ils cheminèrent quelque temps de concert dans le claquement paisible des sabots. Grossie par la fonte des neiges, la rivière grondait un joyeux ramage. Le soleil poudrait de lumière les derniers bancs de brume et faisait miroiter la rosée sur les prairies. Au milieu de toute cette joliesse, le jeune chevalier restait sombre.
« Cette liberté va me coûter bien cher, » déplora-t-il.
« Que voulez-vous ? Telle est la rançon d'un homme de valeur. »
« Je me flatte en effet d'être un homme de valeur, et ma défaite m'enivre d'autant plus. Mais cela ne m'empêche pas de n'être qu'un pauvre bachelier. Mon harnois et mon destrier forment toute ma fortune. » Mon père s'est saigné aux quatre veines pour me fournir mes armes. Quant à mon bon cheval, mon Contenson, c'est une largesse faite par le comte de Dinel à l'occasion de l'adoubement de son fils, monseigneur Guingamore. Je n'oserai plus reparaître à la cour si je suis dépouillé de ses biens.
Voilà qui est fâcheux. Mais il aurait fallu y songer avant de me jeter le gant.
J'étais persuadé que j'aurais le dessus.
Grommela Ivorin.
Eh bien, quoique chèrement payé, vous aurez acquis une leçon de prudence. En d'autres circonstances, je vous aurais sans doute fait grâce de la rançon. Mais vous m'avez orné d'assez méchants noms. Et vous avez refusé d'entendre mes raisons. Ce serait faiblesse de ma part que de ne point vous demander réparation. Soit vous me cédez vos armes et votre destrier, soit vous restez mon prisonnier. »
Sur leurs arrières, le petit Quel toisait l'écuyer du chevalier d'azur d'arrogante manière. Bribras lui jetait un regard noir, maîtrisant à grand-peine son aigreur, ce qui amusait fort le page.
« Dire que j'avais gagné 3 chevaux à Belcastel ?» maugréa Ivorin.
« Donnez-m'en 2.
Et je vous tiens quitte avec votre armure et votre Contenson. Je vous les aurais proposés si je l'avais pu. Hélas, ils ne sont plus en ma possession. Je les avais remportés de haute lutte au tournoi donné par le comte de Dinel pour l'adoubement de son fils. J'y ai d'ailleurs reçu le prix de vaillance. Mais comme je n'aurais pu m'illustrer de la sorte sans le destrier offert par monseigneur le comte, j'ai voulu l'honorer en lui montrant que j'étais digne de cette largesse. J'ai donné ou rendu mes prises.
Un geste fort courtois. On a dû vous louer à la cour.
Cette courtoisie me vaut maintenant d'avoir à choisir entre ma dignité et ma liberté.
Tout en flattant de la main l'encolure de sa monture, le sire de Vaumacel prit un instant de réflexion.
Quoique je ne sois en rien responsable de votre embarras,
finit-il par dire. Il me déplaît d'en être l'instrument. Non que je revienne sur mes conditions. Vous m'avez insulté, il faut réparer l'offense. Mais je n'aurais aucune satisfaction à vous rabaisser au rang de varlet. Sans doute pouvons-nous trouver quelque accommodement.
Pourvu que cela n'attente point à mon honneur, je vous en serai obligé.
Bien qu'il m'appartienne désormais, imaginons que je vous laisse la jouissance de vos armes et de votre destrier. Vous avez déjà remporté des combats, vous en gagnerez d'autres. Cédez-moi vos futures prises,
et vous pourrez garder Contenson avec votre Arnois. Je vous accorde un an pour m'apporter votre rançon. Naturellement, si vous n'avez rien pris d'ici là, il faudra me céder tout de bon votre équipage. Enfin, il va de soi que tant que vos armes m'appartiennent, vous ne les lèverez plus contre ma personne. » Le sire de Kéan ne parvint pas à dissimuler son soulagement.
« Ah, sire Dan, vous m'ôtez le couteau de la gorge. Je vous donne ma parole qu'avant un an, vous aurez votre dû.
Assurez-vous quand même de ne pas reperdre votre cheval. » badina le chevalier de Vaumacel.
« Plutôt périr que revivre pareille honte.
Oh, je ne vous en demande pas tant. Montrez juste de la mesure. Tenez, puisque nos intérêts sont désormais liés, permettez-moi de vous donner un conseil. Je ne doute point qu'on vous ait accordé un prix de vaillance, sire Ivorin. Vous en avez la vertu. Quand nous nous sommes affrontés, j'ai éprouvé la force de vos armes, et elle vaut largement la mienne. Mieux encore, vous êtes jeune. Vous auriez dû soutenir l'effort plus longtemps que moi. Pourtant, c'est moi qui vous ai mis à terre. Je vais vous en donner la raison. Ainsi, vous ne répéterez pas votre erreur et vous aurez de meilleures chances de me payer rançon.
Vous êtes le vainqueur? Je dois vous concéder le droit de me faire la leçon.
Je vous crois quand vous me dites avoir remporté un prix sur la lice. Vous avez le défaut des champions de tournoi. Vous chargez avec une trop grosse lance. Certes, rien de mieux pour épater la galerie. Cela montre votre force et vous donne un avantage sur les adversaires dont la monture est moins puissante que la vôtre. Malheureusement pour vous, mon Lauriagor vaut largement votre Contenson. Si l'adversaire soutient l'assaut, le bois de votre lance ne plie ni ne rompt. Toute la violence du choc vous revient dans le poignet et l'épaule. Moi, j'ai cassé ma lance, mais j'ai ménagé mon bras droit. Quand nous avons tiré l'épée, la victoire était déjà mienne. Votre poigne ne valait plus la mienne. Je n'avais plus qu'à vous forcer dans vos retranchements. Vous devinez déjà mon conseil. Oubliez vos fanfaronnades de tournoyeur et usez de lances ordinaires. Quoique plus rien ne retint Ivorin de Kéan dans la compagnie du sire de Vaumacel, les deux hommes poursuivirent leur route ensemble. Le jeune preux comptait lui aussi faire étape au château du Trèfle. Quittant le finage de Chanevier, ils s'engagèrent dans les prairies et les vergers de Pivier, sans toutefois traverser le hameau. Quelques manants croisés sur les chemins leur cédèrent le passage en se découvrant. La rumeur du drame survenu sur le pré du Bestorné ne courait pas encore le pays. Le soleil se faisait presque doux sur les campagnes. Quelques averses un peu froides étaient suivies par de brillantes éclaircies. Bien que les arbres fruitiers fussent encore dépouillés, le rossignol, la grive et le pinson chantaient déjà leur ode au printemps. Dans cette atmosphère clémente, le commerce des deux prud'hommes finit par se teinter de cordialité. Au bout d'un moment, le chevalier d'Azur s'en étonna à haute voix. « J'espère que vous ne me tiendrez pas rigueur de ma franchise, sire Dan, mais vous ne ressemblez guère au félon que je voulais défier. »«
J'en suis fort aise. Que ne m'avez-vous écouté avant que nous en venions aux mains ?»
Je vous accorde que j'étais trop sûr de ma force. Mais j'aurais juré, malgré tout, la mettre au service du bon droit. On rapporte que vous tuez vos ennemis sans la moindre pitié. Aussi me voici surpris d'avoir été épargné et de me retrouver libre de mes mouvements.
Il m'est arrivé d'oxyre des adversaires lorsque la nécessité ou l'honneur m'y contraignaient. Mais je n'en tire nulle gloire.
Pardonnez mon audace, mais il se raconte aussi que vous êtes déloyal. Lorsque la duchesse Odéarde fut accusée d'adultère, vous n'avez point répondu à la convocation de la cour ducale. Vous n'avez pas défendu la dame dont vous aviez entaché la réputation.
Est-ce la baronne de Brégor qui a ainsi flatté mon portrait.
Naturellement. Et c'est pourquoi j'ai souhaité devenir son champion.
Cependant, n'allez pas croire que cette dame est la seule personne à médire de vous. Avant même d'épouser sa querelle, j'avais entendu raconter pique-pendre à votre sujet. Dans le comté de Belle-Estance, la maison de Maginois vous tient pour lâche et perfide. Il paraît également que la maison de Combe-Noire vous poursuit pour un crime de sang. Avant-hier, j'ai croisé un fort parti de chevaliers qui vous recherchaient. Il était commandé par l'un des fils de Monseigneur le Duc, le jeune Blancandin sans escrigne. J'étais même bien content de vous avoir trouvé le premier, car je craignais qu'un autre me ravît l'honneur de vous jeter le gant. Vous ne manquez point d'ennemis, sire Edan. Toutes ces accusations et toutes ces haines m'avaient persuadé que vous étiez odieux et que votre capture m'apporterait une grande renommée. Or, je me suis trompé sur toute la ligne. Vous avez eu le dessus et vous m'avez traité avec courtoisie. Pour la première fois, quelque chose dans le propos du jeune chevalier parut déconcerter le sire de Vaumacelle. « Le seigneur Blancandin, dites-vous » releva-t-il.
« En personne. J'ai eu l'honneur de le saluer il y a 2 jours à peine, sur le chemin de Vert. »
« Comment est-ce possible ? Il se trouve loin du duché, dans la principauté du Sacre. Il sert l'archichapelain de l'ordre radieux. »
Eh bien, s'il l'a servi, il ne le sert plus. Il ne portait pas le manteau de gueule de l'ordre, et les chevaliers qu'il menait n'étaient point paladins.
Voilà qui est singulier, dit le chevalier de Vaumacelle sur un ton rêveur. Son compagnon le dévisageait d'un air perplexe. Je vous entretiens des périls que courent votre réputation et votre personne, observa-t-il, et tout ce qui vous intéresse, c'est le retour de Monseigneur Blancandin. Il s'agit là de la seule nouvelle que vous m'apprenez, sire Ivorin.
Pourquoi vous trouble-t-elle à ce point?
Parce que j'ai pratiqué le grand conseil de l'ordre. Jamais le grand maître et l'archichapelain n'auraient accordé un sauf-conduit à Blancandin avant la fin de son service. Le jeune insolent aura brisé ses vœux et probablement outrepassé la volonté de son père.
Alors c'est qu'il est gouverné par un puissant ressentiment.
Hélas, je crains que vous n'ayez raison.
Le sire de Vaumacelle médita un moment en se laissant porter par le pas du cheval. Il paraissait plus pensif qu'inquiet, son rude visage redevenu impavide.
Mes armes ont soutenu mon droit, finit-il par dire. Aussi n'ai-je pas à me justifier à vos yeux. Cependant, je comprends que les rumeurs qui courent à mon sujet vous aient mal disposé à mon égard. Tout n'est pas faux dans ce que l'on vous a dit. Mais je crains que l'on ait tordu les faits. Oui, j'ai tué des chevaliers. Bonnes ou mauvaises, j'avais mes raisons. Non. Je n'ai pas répondu à la convocation de Son Altesse Ducale au cours du procès de Madame Odéarde. Hélas, j'avais les mains liées dans cette affaire, car s'il n'avait tenu qu'à moi, j'aurais défié le duc et ses vassaux.
Confessez-vous le meurtre du cousin de la baronne de Brigord ?
Sir Lorcan est bien mort de ma main, mais je m'inscris en faux contre l'accusation de meurtre. Ce fou m'a attaqué sans défi en bonne et due forme, et contre l'avis de la baronne. Il s'est jeté sur moi alors qu'il ne portait point l'armure. Sans cette imprudence, il serait toujours en vie.
N'aviez-vous point insulté la dame de Brigord? N'est-ce point la raison pour laquelle Sir Lorcan vous a attaqué?
J'entends qu'on vous a bien dressé, Sir Ivorin. Je ne vous le reproche en rien. Plus d'un chevalier a été dupé par Dame Erambourg, à commencer par moi-même, car j'ai été son champion avant que vous ne preniez la place. Vous y trouverez même l'explication de cette autre tâche sur ma réputation. La mort d'Iwell de Combe-Noire, C'est pour servir la baronne que je l'ai défiée dans un combat à outrance. Hélas, Ciriwell avait cessé de respirer quand j'ai découvert que la dame ne m'avait livré que des demi-vérités. J'ai quand même peine à croire qu'une dame si courtoise puisse dissimuler tant de perfidie. Ah, je vous accorde qu'il est difficile de résister à ses charmes. Quoiqu'elle ne soit plus de première jeunesse, elle demeure une vraie beauté et possède une conversation pleine d'agréments. C'est pourtant moi qui ai insisté pour embrasser sa cause. Elle me l'a déconseillé, en me disant fort justement que vous étiez un adversaire redoutable. Ainsi qu'impitoyable, si je vous ai bien entendu. Ainsi qu'impitoyable. Je reconnais bien là son habileté. Le chevalier d'azur secoua le chef avec incrédulité. « Vous me brouillez l'esprit, Sir Edan, » protesta-t-il. « Qui croire à présent ? Je constate trop tard combien j'ai été mal avisé de me mettre entre vous. Une chose est sûre, je m'effraie de ma prochaine rencontre avec la dame davantage que je ne craignais de vous défier. J'aurais grande honte à lui avouer ma défaite. Vos desseins risquent en effet de se trouver gravement compromis. » « Mes desseins ? Qu'entendez-vous par là ? Eh bien, la dame est veuve, et le moindre de ses appâts n'est pas sa baronnie. » Ivorin s'empourpra. « Sire Edan, si je n'étais point votre prisonnier, je vous demanderais raison de ces paroles. Je n'appartiens pas à cette clique de gentillâtres qui court la prétentaine. Oh ! N'y voyez rien de désobligeant. C'est un fort beau parti. Sans doute, mais je me base en gentilhomme, et non en soudoyer. Du reste, j'ai donné ma foi à une autre belle personne. Dans ce cas, je vous prie d'accepter mes excuses. J'admire même votre désintéressement. Il confirme que vous avez l'âme bien née. Le chevalier d'azur accepta le compliment d'un salut un peu raide. « Le service des dames nous jette dans d'étranges traverses, » poursuivit le sire de Vaumacel. « Vous voici mon prisonnier pour avoir soutenu la baronne. Me voici calomnié pour avoir porté les couleurs de la duchesse. Je soutiens cependant que nous ne sommes pas à plaindre. Si nous ne combattions que pour un suzerain ou des terres, que serions-nous ? De simples vassaux. En prêtant notre bras à ces dames, si artificieuses soient-elles, nos épreuves nous élèvent. On trouve parfois plus de grandeur dans l'abaissement que dans la gloire. » Les chevaliers arrivèrent en vue du trèfle au milieu de l'après-midi. Comme ils chevauchaient dans les collines basses surplombant le cours de l'Andoune, ils découvrirent le fief à un détour du chemin, alors qu'ils en étaient déjà fort proches. Les tours, le manoir, les pignons et les hautes cheminées leur apparurent derrière un rideau d'arbres légèrement en contrebas. La place forte du trèfle avait la singularité d'être un château de plaine, ou pour mieux dire, un château de vallon, car elle occupait une jolie combe dans un repli de la vallée. La résidence était ancienne. Le premier logis seigneurial avait été édifié jadis sous le royaume de Léomance. À cette époque lointaine, la paix régnait dans la province de Bromel. La couronne montrait suffisamment de fermeté pour brider les guerres privées et avait repoussé les clans d'Ouromagne bien au-delà de la Claye. Aussi les premiers seigneurs du pays avaient-ils fixé leur demeure sur une terre agréable plutôt que sur un site défensif. Dans les siècles qui suivirent, les troubles devaient rendre ce choix fort hasardeux. La guerre des grands vassaux, l'effondrement de la Léomance, la difficile affirmation ducale sans cesse fragilisée par les querelles féodales et par les raids ou romans, rendirent la région peu sûre. Aussi, pour compenser la fragilité de sa position, le château du trèfle se renforça-t-il. Au fil des générations s'y ajoutèrent quatre tours de taille et de forme différentes, un mélange pittoresque de Our et de Machicoulis, des raffinements d'échauguettes et de bretèches, tandis que, pour compenser la faiblesse de ses défenses naturelles, de larges douves creusées autour de l'enceinte
la transformait en île. Toute cette puissance castrale faisait la surprise d'apparaître presque au dernier moment, nichée dans son berceau de verdure, comme si un castel fée se fût dressé au milieu de son étang. Ivorin de Kéan, qui s'y rendait pour la première fois, fut émerveillé par la découverte. Edan de Vaumacel ne manifesta pas le même étonnement. En fait, ses yeux se perdaient au loin, par-delà la vallée de l'Andoun, jusqu'à un relief bleuâtre barrant les horizons. Il s'agissait des hautes terres d'Agurande, sur les marches du comté de Kimark. Tout en cheminant vers l'entrée, le chevalier d'Azur se récriait un peu naïvement à propos du château. Aussi ne fût-ce qu'au dernier moment qu'il prêta attention aux prairies entourant les fossés. Plusieurs varlets y faisaient pâturer une riche écurie. En y promenant un regard connaisseur, le jeune sire de Kéan parut saisi. Il posa la main sur l'avant-bras du chevalier de Vaumacel qui chevauchait à son côté. « Sire Edan, lança-t-il d'une voix pressante. « Arrêtons-nous un instant. »«
Et pourquoi donc? Nous sommes presque arrivés. »«
Je reconnais ces chevaux, et j'ai quelque chose à vous dire. » Les deux hauts hommes tirèrent sur les rênes, et leur petite bande s'embouteilla derrière eux. « Comme vous m'avez épargné, à moi de vous rendre l'appareil, » expliqua Ivorin. « J'ai vu plusieurs de ces animaux avant-hier. Ces destriers et ces palefrois appartiennent à la suite de Monseigneur Blancandin. Il aura eu la même idée que nous et fait étape en ce château. Si vous franchissez ces portes, vous allez vous jeter dans la gueule du loup.
Ah, eh bien, je vous sais gré de m'en instruire. Tournons bride, tant que nous sommes hors de la place. Voilà qui ne passera pas inaperçu du haut des murs.
Il n'y a nulle offense à passer son chemin.
Il y en aurait à ne pas présenter mes excuses au seigneur du trèfle. Quant à Blancandin, ce n'est qu'un jouvenceau. Il serait ridicule de le craindre.
Une compagnie de plusieurs chevaliers, leurs écuyers et leurs gens, lui fait escorte. J'en ai reconnu un qui vient de mon comté, le sire Cowir de Thèves. Naguère, n'appartenait-il point à l'hôtel de la duchesse?
Si fait, c'est d'ailleurs un homme valeureux.
On dit qu'il a tout perdu quand dame Odéarde a été répudiée. Cela lui donne de sérieuses raisons de vous haïr. Et je gage que ses compagnons en auront autant à votre service.
Vous m'obligez en me prévenant de la sorte,
salua le sire de Vaumacel. Il eut un geste négligent de la main.
Toutefois, il n'est pas dans mes habitudes de me dérober. Entrons. Nous jugerons sur place.
N'est-ce pas vous qui m'avez professé une leçon de prudence?
Rassurez-vous, je ne vous associe en rien à ma querelle. Après tout, vous êtes du parti d'en face.
Mais vous m'avez laissé mes armes et donné obligation de les regagner. En cas d'assaut déloyal, je vous seconderai.
À la bonne heure. Si Blancandin est aussi mal disposé que vous le dites, vous ne resterez pas longtemps mon prisonnier.